Répète ta question pour que.
Je pose la question. Pourquoi, à quoi ça sert qu'on enseigne toute la Torah au fœtus, comme Chazal nous explique? Et lorsqu'il sort, alors, Rami nous explique comment on le frappe sur la bouche et il oublie tout. Et la réponse qu'on donne en général, c'est que. À quoi cela ça sert? C'est-à-dire que c'est incorporé dans son inconscient, et lorsqu'il va réétudier la Torah, alors il va redécouvrir des choses. C'est imprimé dans son inconscient.
C'est pour ça qu'on a.
Cette réponse m'a l'air un petit peu. Ça ne se fait pas énormément, alors je voulais savoir si on peut développer plus sur ce sujet.
Bon, à mon humble avis, c'est la chose suivante. C'est-à-dire que pour que nous puissions assimiler une chose, qu'on puisse apprendre une chose, il faut que nous ayons auparavant des notions qui permettent d'assimiler cela. Une chose que je ne peux pas, que j'ai aucun outil. Comment on apprend une chose? On apprend par ressemblance et par différence. Tu vois les choses toujours relativement à. Tu apprends tout relativement à. On parle souvent ici de cela, que la Torah débute par l'être bête. Quelqu'un m'a envoyé un message sur Internet. Est-ce que c'est un pur hasard que la Torah commence par l'être bête? Et que aussi le monde a commencé par le Big Bang, c'est aussi un bête, d'accord? Je pense que c'est un pur hasard, c'est absolument rien à voir. La réponse que je donne maintenant, il n'y a aucun, c'est tout à fait par hasard et il n'y a rien à chercher là-dedans. Par contre, si Chazal, la Torah commence par l'être bête, elle veut dire une chose, que ce monde-ci, contrairement à Dieu qui commence par l'être Aleph, que Dieu se dévoile et il parle, il se montre, alors il dit Anokhi Hashem Elokecha, je souhaite être un tour 2 qui est sorti d'Égypte. Anokhi commence par l'être Aleph, Dieu il est 1. Aleph égale 1. Bête égale 2, pour dire que tout ce monde-là fonctionne par dualité. C'est que tu peux saisir les choses que par deux. Tu ne peux pas voir une chose en tant qu'elle est elle-même. Je vois le verre parce que je vois ses bords. C'est quoi le bord? C'est où arrête 1, commence 2. Je vais souvent cet exemple-là. Si on imagine qu'on était tous dans un monde complètement rouge, tout est rouge. Rouge depuis qu'on est né. On n'a jamais vu autre couleur que le rouge. Est-ce que nous pourrions percevoir que c'est rouge? Absolument impossible. Il faut que tu aies un point référent relatif qui permet de dire « Ah, tiens, ça c'est rouge, ça c'est pas rouge. » Si un petit bonhomme vert venait de la planète Mars et nous laissait un petit pois vert ici, le juif qui ferait la bonne affaire, parce qu'il faut faire des bonnes affaires, il trouve un petit pois, il ferait le musée du pois vert, venez découvrir que vous habitez dans un monde rouge. Il ferait beaucoup d'argent. Parce que les gens sortiraient là-bas, c'est extraordinaire. Tu sais qu'on vit dans un monde rouge? Quoi rouge? Tu vois pas que c'est rouge? Quoi je vois pas que c'est rouge? Ben c'est comme ça. Tu peux pas voir. Va voir le petit pois vert. Quand tu vois petit pois vert, tu comprends rétroactivement que tu es dans un monde rouge. Quand il y a un, on voit rien. Quand il y a deux, on peut rétroactivement comprendre qu'il y avait un et donc il y avait deux. On comprend une chose que relativement à. Je vois le vert parce que je vois où il s'arrête et je vois où commence le non-vert, l'espace. Je vois la table où elle s'arrête. Je sais ce qui est chaud parce qu'il est froid, je sais ce qui est lumineux parce qu'il est obscur, je sais ce qui est beau parce qu'il est laid, etc. Donc nous devons avoir des notions préalables dans notre esprit qui nous permettent de connaître. Parce que si tu n'as pas les notions préalables, tu ne verras rien. Par exemple, les anges. Par exemple, la neshama. Par exemple, la pensée. Par exemple, Dieu. En deux mots, tout ce qui est spirituel. Nous n'avons aucun moyen, en tout cas matériel, on a des outils matériels, les cinq sens. Les cinq sens permettent de sentir des choses matérielles, toucher, vu, oui, odorat, qu'est-ce qu'il y a encore? Tout dit? Parole? Bon, parole c'est... On va dire...
La vue,
j'ai dit. Ok? Quatre sens où on reçoit, un on donne. Donne c'est la parole. Mais quatre sens par lesquels tu vois, tu perçois le monde. Quel monde tu perçois? Le monde matériel. Que le monde matériel. Avec ces cinq sens, ces quatre sens de perception, je ne peux pas voir le monde spirituel. Donc quelque part, il n'existe pas. Donc, quelque part, je ne peux avoir aucune idée claire de ce que c'est. C'est pour ça que les enfants et les adultes enfants, on a parlé de cela un peu hier, des secrets de la mystique juive, ne peuvent pas leur parler de notions qui sont spirituelles sans qu'ils y mettent une image. Ils vont imaginer. Il y a la matière telle que je la vois. Il y a l'imagination qui est donner une image matérielle à une chose qui n'est pas matérielle. Et d'habitude, l'imagination, elle est fausse. Elle imagine, c'est faux. Et il y a la raison pure. La raison pure, c'est ce qui me permet, oui, de connaître Dieu, les anges, la neshama, la pensée. Mais ça se développe beaucoup plus loin. On a parlé un peu dernièrement aussi de la raison pure. Si je veux un syllogisme, c'est A égale à B, B égale à C, alors A égale à C, c'est une raison pure. Pas besoin de regarder des formes et des lettres A, B, C. C'est dans l'abstrait. Le danger quand on parle de choses abstraites, telles que Dieu, la pensée, les anges, le paradis, l'enfer, etc., alors on a tendance à mettre une image. C'est faux, c'est archi faux. Et hier, quelqu'un posait la question, parce qu'on ne pouvait pas étudier la Kabbalah, quels étaient les dangers des secrets de la Kabbalah. Je dis, il n'y a pas de secret. Ce qui est qu'on n'est pas capable de comprendre de quoi on parle. Je vais donner l'exemple du Tzimtzoum. J'en ai parlé un peu maintenant avec mon Ravouta qui va entendre la fin du shiur, et j'ai réussi à bien l'expliquer, j'essaierai cela un peu mieux ici. Tout ça pour arriver à la réponse à ta question. Je l'ai expliqué hier, que c'est marqué dans les livres de pensée juive, de mystique juive, que comment se fait-il que Dieu qui est infini, qu'au-dessus du temps, tout d'un coup, il intervient dans le temps. Pour intervenir dans le monde fini, dans le temps, il faut être dans le fini. Si tu es infini, tu n'as aucune relation dans le fini. Alors, la mystique juive dit un secret. Pourquoi c'est un secret? C'est une chose que nous ne comprenons pas. Elle dit qu'il y a eu le Tzimtzoum. C'est quoi le Tzimtzoum? Une sorte de rétraction dans l'infini. Et il y a eu des bords. Il y a eu une sorte, comme je dis, Rabbi Chaim Vitali l'écrit, il y a eu un rond. Et après, l'infini, il agit par un cas, par une voie, d'accord, jusqu'au centre de ce rond. Et de là-bas, tout de nouveau, la présence divine va éclairer, mais pas de façon infinie, de façon finie, de façon petite, adaptée au monde du fini. L'infini va agir dans le fini, mais de façon relative au fini, de façon finie.
Le schéma, c'était quoi encore une fois?
Le schéma, on voit un rond,
oui.
Et un trait qui descend jusqu'au centre du rond, comme si tu fais le rayon, d'accord? T'as un rond, R, d'accord? Exactement ça.
Dans l'infini, le monde, c'est rond.
L'infini, c'est l'infini qui est autour.
Oui, c'est un rond au-dessus, puis là, c'est le rond.
C'est le rond, c'est pas le monde, l'univers, qu'on va faire. On parle de choses spirituelles, d'accord? On parle dans Dieu, il y a eu tout à coup le rond. Alors évidemment, le danger, c'est quoi? Parce que les gens vont comprendre que je ne parle pas des gens qui vont croire que le monde il est rond. Ça, c'est vraiment ce sous-niveau, d'accord. Mais le niveau normal des gens, qui est aussi un sous-niveau, ils vont croire une chose absurde. C'est que dans l'infini, tout à coup, il y a eu un rond. Au milieu du rond, tout à coup, il y a un cave qui est descendu. C'est absurde. C'est comme si je disais maintenant, tu as un sentiment. Tu as un sentiment d'amour pour ta femme, on va dire, d'accord, pour tes parents. Et dans le sentiment, tout coup, tu as un rond. Alors le gosse, il te regarde, t'as un rond dans le sentiment. Parce que j'ai un rond dans ma pensée. Quand tu imagines un rond, moi, je ne sais pas que j'imagine un rond. Lorsque nous parlons de choses qui sont abstraites, spirituelles, toutes les notions de géographie, de géométrie, de situation dans l'espace n'existe pas, vu qu'il n'y a pas d'espace. La Kabbalah, la mystique juive, parle de choses qui sont abstraites, mais on doit en parler. Alors on parle par exemple de choses qu'il ne faut surtout pas prendre à la lettre, parce que tu ne peux pas prendre maintenant une réalité qui est abstraite pour une chose qui est justement, pour une chose qui est matérielle, elle est abstraite. On veut en parler. Nous, on ne peut pas parler comme ça, alors on parle avec des exemples qui sont dans le concret. Mais c'est un exemple, ce n'est pas la réalité. Le Ben Ishraï, il a écrit un shoot, une responsa qui s'appelle Rav Pealim. Rav Pealim, c'est un responsa, donc des questions-réponses qu'on a écrit au Ben Ishraï. Et à la fin de chacun des quatre volumes, il y a un petit recueil de responsa, de réponses, qui s'appelle Sod Yesharim, secret des droits, qui sont des réponses, questions-réponses en Kabbalah. Et là-bas, un jour, je disais comme ça un peu pour m'amuser, pas que je comprends grand chose, mais j'ai eu une question intéressante. Quelqu'un qui lui écrit, voilà, moi j'ai déjà lu 5 fois Esraïm. Esraïm, c'est comme la Gemara, mais de la Kabbalah, d'accord? C'est solide, c'est dur de finir sans une vie, c'est beaucoup, d'accord? Lui a fait déjà 5 fois. Il demande ce qu'il peut commencer à enseigner.
Il est très
bon. Le Ben Ishraï lui rentre dedans. Pour qui tu te prends? qui es-tu, quoi, que tu crois que tu peux commencer à enseigner la Kabbalah? À quoi cela ressemble? Il dit, c'est comme un enfant qui avait un papa qui était capitaine d'un bateau, d'un grand navire. Le gosse, il a 4 ans. De temps en temps, tous les 6 mois, le père rentre à la maison, dit un petit bonjour pour une semaine, avant de repartir pour une autre croisière de 6 mois. Alors, lorsque le père va partir, le gosse, il dit, papa, tu repars? Oui, tu vas où? Je vais dans la mer. Qu'est-ce que tu as? J'ai un navire. Oui, comment ça? Explique-moi, c'est quoi un navire dans la mer? Alors, le papa, il prend. Alors, le Benishraï, sur 2 pages, il explique ça. C'est extraordinaire comment il y avait. Il prend, voilà, le papa, il prend une noix, qui casse en deux. Il prend la coquille de la noix. Après, il prend une épingle. Il explique tout, hein. Tu prends une épingle, tu la mets au centre. Après, tu prends une feuille, comme ça. Tu la découpes en triangle. Il l'a collé. Il l'a mis dans une assiette avec de l'eau. Il s'est mis à souffler. Et, tu vois, comme ça, le bateau qui va dans l'eau. Voilà, moi, je suis capitaine d'un bateau comme ça. Le gosse, il imagine que le père est le capitaine du bateau. Qui est dans l'assiette. L'homme adulte comprend que non, c'est un exemple en extrêmement réduit, ridicule, d'une autre réalité. Toute la Kabbalah, elle parle en exemple d'une autre réalité. Quand on parle de sphère, il n'y a pas de sphère là-haut. Quand on parle du nom de Dieu, il n'y a pas des lettres là-haut. Quand on parle d'un rond dans l'infini, il n'y a pas de rond dans l'infini. Il n'y a pas de rond, il n'y a pas d'espace. C'est tout, on parle d'un niveau beaucoup plus haut. Et lorsque les gens ont tendance, lorsqu'ils n'ont pas encore développé chez eux les outils de compréhension de choses abstraites, ce qu'on fait ici en étudiant beaucoup la Gemara, alors ils ont tendance à faire une chose qui est très grave, parce qu'on ne peut pas se tromper quand on parle de Dieu. On ne peut pas commencer à voir des barbes et voir des sphères et voir des ronds. Et commencer à parler à des lettres. T'as des kabbalistes, tu vois des bouquins de Kabbalah d'intention, c'est tout des lettres. Alors, les gens, ils prient comme ça, ils voient des lettres partout. Et alors quoi? T'imagines qu'il y a des lettres là-haut? C'est grave. C'est pas ça du tout, Dieu. C'est pas ça du tout. Alors, des gens qui sont petits, avec l'esprit petit, donc ils prennent les choses à la lettre quelque part. On leur dit, c'est, oui, comprends, c'est un exemple. Hein, qu'il y a vraiment la lettre, elle n'est pas là imprimée sur un papier. Mais une réalité de lettre, il y a une sorte de lettre. Je ne sais pas comment c'est, ce qu'ils imaginent. Imagine. Le mot imagine égale erreur. Égale erreur. C'est pour cela que tant qu'on n'a pas développé des outils qui vivent dans l'abstrait. Tant que quelqu'un, il vit dans son imagination, il vit dans son corps. Ce qui est important pour lui, c'est quand il a faim. Ce qui est important pour lui, c'est les filles. Ce qui est important pour lui, c'est son fric. Ce qui est important pour lui, c'est son cavode. Il est dans la matière. Il n'est pas dans l'esprit. Comment tu veux maintenant, avec des outils de compréhension tellement grossiers, matériels, comprendre les choses qui sont les plus hautes, qui sont le fin fond de l'abstrait? C'est ridicule. C'est ridicule, c'est comme si vous la soignez les dents de quelqu'un avec un marteau piqueur à béton. Tu vas tout casser. On parle maintenant de hyper minutie très très fine de la raison. L'outil qui permet d'arriver à ça, ça s'appelle la raison. J'imagine que lorsqu'on dit que le fœtus, on lui enseigne toute la Torah, c'est-à-dire que pour que nous puissions un jour apprendre la Torah, il faut qu'on ait mis en nous quand même une petite chose qui est en plus des 5 sens, une chose qui est spirituelle, de la Neshama. Une connaissance qui me permet d'accéder aux choses profondes de Torah. Si je dis maintenant, je recherche quelqu'un, il est sensible à la vérité. Pourquoi quelqu'un vient à l'échiva? Pourquoi quelqu'un commence à étudier la Torah? Ou bien parce qu'il a reçu ça de ses parents, puis il le fait par mécanisme. Ou un beau jour, il vivait dans le n'importe quoi, puis il se dit, quel est le sens de ma vie? Et il sent une pulsion très forte de vouloir rechercher un sens. Cette authenticité, cette recherche de vérité, tu peux pas donner à cela une image. Il n'y a pas d'image à cela. C'est une chose qui est, c'est pas dans les 5 sens. C'est une réalité palpable, je dirais, palpable de spiritualité. Quelqu'un sent qu'il a un désir de sens, un désir de savoir la vérité de sa vie. Pourquoi il vient sur Terre? Quelqu'un, il y en a d'autres qui disent, mais pourquoi tu casses la tête? Qu'est-ce qui t'arrive? T'as un problème? Va voir un psy. Tu manques de rien, tu as tout ce qu'il faut. Quelqu'un qui vit râle et pâquerette, avec rien que les outils grossiers du corps, effectivement, il ne manque rien du tout. Il a l'argent, il a les voitures, il a les bagnoles, il a le cavole, qu'est-ce qu'il manque? Tout ce qu'il faut, qu'est-ce qu'il manque? Celui qui a reçu, et c'est de cela dont nous parlons, plus que cela, chaque homme a l'art potentiel plus ou moins. Il peut atrophier. Parce que le questionnement vient toujours une fois dans la vie. Pourquoi je vis? Chez tout le monde, il y a au moins une fois dans la vie pourquoi je vis. ou le premier jour tu l'atrophies, puis il est terminé pour toute ta vie, tu continues tout droit jusque dans la tombe, un mètre sous terre, dans la matière, et tu n'es pas plus qu'un animal. Moi, à mon avis, parce que tu avais un potentiel de sortir de ta condition animale, tu restes dans la condition animale. Ou bien, le Rambam me dit c'est comme des singes. Alors, il est très très dur. Il est comme des singes. Quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, il est comme un singe, il n'y a pas de différence. Singe, il est pas mal intelligent comme animal. C'est pas moi qui dis ça, moi je reposais de le dire. Le Rambam. Maïmonide. Ou bien tu développes chez toi la connaissance des choses qui sont abstraites. Ça s'appelle la raison. Je donne un exemple maintenant qui est palpable. Quelqu'un maintenant quitte le monde de matérialité pour rechercher maintenant la raison de sa vie. Il recherche Dieu. Il recherche l'éternité. Et quand on dit ces mots-là, vérité, éternité, sens, c'est une résonance chez lui. Ça, ting, il y a un... Pourquoi ça résonne? Où ça résonne? Qu'est-ce que c'est? Il y a une réalité palpable, palpable, spirituelle. Je ne vais pas la toucher, d'accord? Mais ça résonne. Ça résonne. Ça me dit quelque chose. Viens, je vais maintenant te dévoiler le vrai sens de ta vie. Quelqu'un, il ouvre les yeux, il veut écouter. Qu'est-ce qui se passe? Au niveau du corps, tu n'as pas besoin de ça. Donc ça veut dire qu'il y a une réalité existante d'une chose qu'on ne voit pas. Allons pendant les 6 mois, la pensée. Il y a certains gens qui se trompent, qui la pensée, c'est rien. C'est une activité, une excitation des neurones. Ça, il n'y a pas de neurones, il n'y a pas de pensée. Mais beaucoup de neurologues disent non. La pensée, elle agit sur les neurones. Elle module les neurones. C'est elle qui excite les neurones. Il y a une sorte d'interaction. Mais il y a une chose qui s'appelle la pensée. Alors il y a une sorte de point de friction qui se fait au niveau du cerveau entre la pensée, le spirituel et le physique, les neurones. Personne ne sait comment ça fonctionne. Personne au monde ne sait. C'est le secret de la vie. Comment l'esprit agit sur le physique. Aujourd'hui, on peut dire que le monde moderne presque a accepté ça de façon, presque tout le monde, que la majorité des maladies, ou une grande partie des maladies, sont psychosomatiques. C'est-à-dire qu'elles ont une source dans le psycho, psyché. Psycho, ça veut dire le mot psyché, en grec, signifie l'âme. Et ça a une influence, une incidence sur le soma. Soma, c'est le physique. La source, elle est dans le psyché, dans l'âme. La médecine conventionnelle accepte cela, mais n'a pas changé la méthodologie de guérison, qu'on ne va pas soigner la source, on va soigner le symptôme. La source qui est dans le psyché, personne ne sait comment ça fonctionne, parce qu'on n'a pas les outils pour. La psychologie a commencé à dire, on peut analyser, elle va à tâtons, elle est qu'à ses débuts. Il y a logisme, logos, il y a une science du psyché, il y a une science, une connaissance, il y a comment ça fonctionne, le psyché, mais ça très très très, très peu. Ça, la Kabbalah en parle, la mystique juive en parle, qui nous sommes, Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya, Yerida, de quelle partie, de comment, pourquoi, etc. Dieu, qui je suis, quelle est ma source, comment ça fonctionne, comment ça vient de l'infini, ça c'est toute l'étude de la Kabbalah. Mais vu qu'on parle de choses qui sont abstraites, si quelqu'un n'a pas développé chez lui, avec beaucoup de Gemara, une construction, des outils qui permettent de ne pas se tromper dans l'abstrait, tout de suite il imagine des choses et il voit tout faux. Il voit des ronds, il voit des sphères, il voit des lettres, il voit des âmes, des trucs, des machins, tu comprends, en fait. Il est complètement à côté de la plaque. Il prie, je ne sais pas quoi il prie à son imagination. C'est très grave.
Les chrétiens ont fait ça.
Les chrétiens ont fait ça, certains. Tous ceux qui donnaient une image, c'est certain, ça c'est pire. C'est pire et proche. Si moi je me commence à parler maintenant, des fois il y a des sidourim aujourd'hui, c'est marqué Baruch HaShem, Keter. Keter, c'est le nom d'une sphère. Baruch HaShem, Magen Avraham, Keter. Baruch HaShem, je ne sais pas moi, Mahayam Etim, Gvura, Chesed, d'accord, c'est des livres qui sont un peu sarades comme ça, avec un peu de Kabbalah. C'est très grave, c'est marqué dans le livre de mystique. Moi je ne m'y connais pas, mais le peu que je connais, celui qui prie à une sphère, Chassé Shalom, alors c'est pas différent que de prier à l'acrobate. Parce que.
Et qu'est-ce que ça veut dire alors quand c'est écrit? Qu'est-ce qu'il veut dire,
ces choses? Je te le dis, mais ne tombe pas dans le panneau. Tu t'adresses à Dieu, mais ta relation à Dieu se fait par la sphère. Mais tu t'adresses à Dieu. C'est comme si tu parles à moi maintenant, tu t'adresses à moi. Mais ça, c'est pas moi. Tu comprends que c'est pas moi. Pas à l'écran, comme je l'ai expliqué une fois. L'écran MSN, d'accord? Tu t'adresses pas à l'écran. Bref, tu t'adresses à la personne à qui tu parles sur l'écran. Et tu parles à l'écran, mais que la personne se trouve autre part.
Pour revenir un petit peu en arrière sur les personnes qui sont très matérielles, qui n'ont pas du tout conscience de Dieu, je pense qu'on a tous des saints, entre guillemets, comme ça, parmi nos proches, et on les aime bien. Comment on fait pour les faire évoluer ?
D'abord, prier. Prier pour eux. Ça, c'est l'action, on va dire, directe. L'action indirecte, c'est leur parler.
Mais quand ils sont plus avec nous,
oui.
Ils prennent pas toujours très bien que des plus jeunes qu'eux viennent leur apprendre la vie.
Oui.
Ils sont en général très mauvais sur les questions qu'on peut leur mettre dans les yeux, donc c'est pas facile.
Écoute, il faut être très fin. Alors, chacun dans sa psychologie, aller lui parler avec la douceur appropriée, ça c'est certain. On n'est pas là pour attaquer, on est là pour réveiller. C'est un travail lent. Nous ne sommes pas des crêpes, pas faire comme ça à quelqu'un, bonjour, d'accord. On peut semer des interrogations, parler de choses, parler de philosophie non juive. Ils sont beaucoup plus ouverts à la philosophie non juive que juive. Albert Camus, un bouquin, Mythe de Sisyphe, là-bas, il dit pourquoi ne pas se suicider ? Quel est le sens de ma vie ? Ça vaut pas la peine de vivre sans qu'il y ait un sens. Quel est ? Je sais pas. Bon, je sais pas. Il y a un niveau intellectuel aussi des gens, hein, des gens qui sont très. Mais il y a des gens qui sont déjà plus soi-disant, on va appeler comme ça, soi-disant un.
C'est pas des gens qui sont très intellectuels, mais qui ont fait un blocage par rapport à la Shoah, par rapport à certaines choses qui font qu'ils mettent de côté complètement l'idée de Dieu.
J'ai pas de réponse passe-partout. Lors des séminaires, on a des preuves dont on pourra parler ici à l'occasion, mais des preuves tout à fait irréfutables, comme quoi Dieu existe, comme quoi non seulement Dieu existe, mais Dieu agit dans l'histoire, et nous sommes sous une providence spéciale de Dieu. Moi, quand je vais dire une chose qui est un peu dangereuse à dire, quand j'ai fait Tchouva il y a 23 ans, mon meilleur copain m'a dit « Comment tu peux faire Tchouva après qu'il y a eu la Shoah ?» Il m'a répondu « Comment je ne peux pas faire Tchouva après qu'il y a eu la Shoah ?» On va lire dans 10 jours, Parashat Kitavo. Peu de gens savent, parce qu'un séminaire c'est très spectaculaire. Mais au séminaire, il y a une conférence où les gens rentrent, non-croyants, sans croyants. Tout le monde l'oublie à la fin du séminaire, parce qu'ils ont vu des choses très spectaculaires après et avant. Mais la vraie démonstration, elle est Parashat Kitavo. Tu prends les prophéties, tu as 98 prophéties, des malédictions que Dieu nous a dit si on ne va pas bien se comporter, ce qui nous attend. Et ça s'est tout réalisé. Que le peuple sera expulsé de la terre, il sera persécuté. On parlera de lui sans cesse. Baïtale Machal, Vilishlina, tu seras une fable. On parle de toi sans cesse, de façon anormale. On parle de nous de façon tout à fait anormale. Tu seras expulsé d'un pays à l'autre, tu n'auras pas de repos pour la plante de ton pied, expulsé d'un pays à l'autre sans cesse. Dieu se dispersera d'un bout de la terre à l'autre, etc. Dieu est persécuté. Quand tu regardes l'histoire juive, c'est une histoire extraordinairement bizarre. Un homme, il regarde ça, il dit c'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal qu'aujourd'hui, quand je cherche maintenant où est le stand et la halle, comment je découvre le stand et la halle ? Hein ? Le stand et la halle, quand je veux maintenant prendre l'avion.
Ah, le stand.
Le stand avec stand, on ne prononce pas le D, on dit stand. On met un D, mais on dit stand. Ouais. Le stand et le hal. Comment est-ce qu'on le retrouve ? Hein ? Tu regardes où tu vois des soldats en gilet pare-balles, avec des mitraillettes, avec des barbelés, défense de garée, c'est là-bas que ça se passe. Un peuple qui ne sera pas compté parmi les nations. Bagoïm loït rachav. Différent, rien à voir. Tous les peuples sont en guerre. Il y a beaucoup de peuples qui sont en guerre. Nous, on a un régime spécial. Régime spécial. Tous les peuples ont eu lorsqu'ils ont eu leur indépendance, il y a des dizaines de nations qui ont reçu leur indépendance le siècle passé. Tous, au début, ça fait du grabus, les gens n'étaient pas contents, les voisins, etc. Ah bon, ça s'est calmé. Nous, ça fait 57 ans qu'on a eu notre indépendance. Quelqu'un accepte, t'as pas droit à ta terre. T'as pas droit à la vie, t'as pas droit à En Mazal d'Israël. Pour en parler, Enmazal, on peut en parler ? Allez, parlons-en. Tu as répondu à ta question pour le fœtus ?
Pas vraiment.
Pas vraiment ?
Non.
C'est que Dieu, avant, dans le fœtus, on te donne une réalité d'âme qui te permet, après, de dépasser ta condition animale, matérielle, qui te donne maintenant suffisamment de notions spirituelles qui existent en toi en potentiel pour que tu puisses accéder à cela. Parce que si tu n'avais aucune, Gary, si tu n'avais aucune, en toi, aucune, aucun outil, aucune prédisposition, aucun point divin ou abstrait ou absolu dans toi, tu ne pourras pas parler, tu pourras penser à l'absolu. Un singe ne pense pas à Dieu. Pour qu'un être puisse penser à Dieu, il faut qu'il ait reçu avant la naissance, dans le ventre de sa mère déjà, c'est-à-dire dans ce qu'il est, dans son essence, une partie divine. On lui enseigne la Torah, ça veut dire. La Torah, c'est l'expression de Dieu. C'est ça.
Alors, un goy ne peut pas apprendre la Torah.
Lui aussi, il peut connaître. Il a aussi sa Knissot Noachid.
Non, mais c'est-à-dire qu'il n'a pas accès, puisqu'il n'a pas appris quand il était
petit. Il a reçu ce qui le concerne, les sept Knissot Noachid. Ça, il l'a.
Et ça suffit.
Pour son job sur Terre.
Il pourrait être Midgaïr.
Non, par contre, Midgaïr, non. Midgaïr, c'est autre chose. Quelqu'un, une fois qu'il est Midgaïr, qui se convertit, il devient juif. Avant, il est goy, il a cette loi Noachid qu'il doit faire. Au nom du Dieu d'Israël. Au nom du Dieu d'Israël. Quelqu'un qui fait les sept lois noachid, pas au nom du Dieu d'Israël, il n'a rien fait. Parce qu'on ne veut pas, simplement parce que socialement c'est intelligent. On fait ça, on parle justement maintenant de quelque chose, de l'entrée de l'absolu dans le monde matériel. La relation entre la matière et l'absolu. Ça, c'est le secret de Am Israël. Que Dieu parle à l'homme. Dieu donne la Torah à l'homme. Nous sommes branchés avec l'absolu. Ça, c'est le rôle de Am Israël. Nous branchons l'humanité à l'absolu. L'humanité, c'est les juifs et les goïms. Le job est avec les juifs pour le moment. Parce qu'on ne peut pas aller enseigner les goïms, connaissez l'absolu, si nous-mêmes on ne connaît pas. Alors il faut d'abord s'occuper des juifs. Quand les juifs connaîtront l'absolu, de facto le monde entier reconnaîtra que nous sommes branchés avec l'absolu.
En tout cas, grâce à cette loi qu'ils apprennent en tant que juifs, ils ont quand même une sensibilité qui leur permet d'accéder peut-être plus à être midgaïr.
Non, un goï qui est goï ne doit pas être midgaïr.
Non, mais je veux dire, c'est-à-dire, parce qu'on peut se demander...
Un midgaïr, c'est une âme juive. C'est une âme juive, c'est un nitzotz juif qui est arrivé dans un corps de non-juif, qui veut revenir, comme j'expliquais ici souvent, quel est, quand on demande à quelqu'un, candidat à la conversion, pourquoi tu veux te convertir? S'il dit, moi je trouve que là, j'ai vu que la Torah elle est vraie, ça peut amener le bien à l'humanité, c'est quelque chose qui est juste, on ne le reçoit pas. Je connais un cas personnellement, quelqu'un qui est venu de temps en temps ici, il a été recalé. Il dit, c'est pas pour ça qu'on se convertit. Quand il dit, je ne sais pas. J'ai une pulsion interne, je veux être juif. Accepté. Parce qu'on parle maintenant d'un point irrationnel intérieur. Irrationnel, c'est un moment de Neshama qui le pousse. Ou c'est une Neshama, c'est un Gilgul d'un juif dans un corps de goy. Ou c'est un Itzot. Lorsqu'il y a eu la tombée, les âmes du premier homme qui sont tombées partout, qui ont créé le monde que nous connaissons, il y a des parties du premier homme qui sont allées dans certains corps potentiels qui devaient venir, et maintenant ils doivent revenir refaire partie du corps du premier homme, c'est-à-dire le peuple d'Israël. Les âmes du corps du premier homme sont les âmes du peuple d'Israël. S'il n'a pas cette chose-là, alors il a un rôle en tant que non-juif, cette loi noachid. Il est branché avec Dieu, il n'a pas à se brancher juif. On ne branche juif que quelqu'un qui potentiellement il est juif. Sinon on n'a rien à faire, et ça ne l'intéresse pas. Il y a beaucoup de goïm qui comprennent que le peuple juif il a raison et qu'ils ont pour que les juifs fassent la Torah. Et eux, ils font cette loi noire, ils sont très bien comme ça.
Mais un goïm ne peut pas comprendre la Torah. C'est-à-dire avoir vraiment accès à la Torah, c'est impossible. Étant donné qu'ils ont pas les outils.
Il pourra apprendre le texte, les choses qui sont simples. Mais la profondeur, la sensibilité, non. Non, c'est délicat pour une chose pareille sur...
Avec la chute, je ne sais pas quoi. Qui s'est retrouvé à Midrash, une histoire comme ça, il connaissait tout.
Il y a des goïms qui ont appris la Gemara, des choses pareilles, d'accord. Mais on n'a pas connu de goïms qui sont arrivés à un niveau haut en Torah, dans la condition de goïm. En tout cas, même si oui, la Torah, c'est pas que comprendre, et c'est pas que pratiquer. C'est être en relation. Or, le juif a certains outils qui lui permettent d'avoir une relation spéciale avec Dieu. Que les goïms n'ont pas, encore une fois, je ne veux pas faire de descendre les goïms, je veux monter les juifs. Les goïms ont une relation qui peut être très puissante avec Dieu. Mais le juif plus, c'est tout.
Alors en fait, c'est des outils de communication qu'on reçoit en tant que fœtus.
Absolument. Parce que ce que nous recevons, à part le Cosmel Nef, et je crois que Neshama Chéchel, ce sont des outils de communication, exactement.
Et pourquoi le peuple juif, il a ce potentiel supérieur là? Est-ce que vous pouvez dire, est-ce qu'ils ont eu leur chance?
Pendant 2000 ans, Dieu a voulu que toute l'humanité fasse le job que nous faisons aujourd'hui. Voilà. Et pendant 2000 ans, l'humanité a été d'échec en échec. Il y a eu Dor Enosh, trois générations après le premier homme, où ils ont commencé à faire Avodah Zara. à cette époque-là, c'est marqué, c'est, les gens ne savent pas forcément qu'il y a dans le Midrash, d'accord, qu'il y a eu l'océan à inonder un tiers du monde. Après, il y a eu le déluge. Après, il y a eu la tour de Babel. Après, il y a eu Sodome et Gomorre. À la fin, après 2000 ans, exactement dans l'an 1948, est né Abraham Avinu. Quand il avait 52 ans, l'an 2000, c'était. Là, Abraham Avinu, il a connu le vrai Dieu et a commencé à. Alors, Dieu avait après 2000 ans, il a donné une époque. Une époque où tout est ouvert pour tout le monde. Un certain temps, il a vu, ok. C'était, on appelle ça l'époque des racines. Jusqu'à Abraham Avinu, l'époque des racines. Des racines de peuple. Les racines ont échoué. Un qui a réussi, Abraham Avinu. On dit, ok, alors Abraham Avinu, lui, je donne le job principal. D'autres auront les jobs annexes. Encore une fois, quel job? Le job de communication avec Dieu. Nous sommes annexes dans d'autres jobs qu'on les goïmes. En technologie, ce n'est pas notre job à nous. Bien qu'il y ait beaucoup de grands technologues, techniciens, juifs, ce n'est pas la spécialité juive en tant que juif. Ils ont une bonne tête, alors ils font la technologie, ok. La musique, l'art, d'accord? Ce n'est pas notre truc à nous. On n'est pas contre, mais ce n'est pas notre spécialité. Notre spécialité spécifique à nous, c'est la névoie. Névoie, la prophétie, la relation avec Dieu, Torah. Chokhma bagoyim ta'amin. Sagesse parmi les goyim, tu peux croire. La médecine, la technologie, très bien, ça marche. Les avions volent, quelqu'un s'écrase de temps en temps, mais la majorité vole, bah, ou Hachem, ça marche. Je ne vais pas commencer à dire non, on ne veut pas rien de chez vous, on reste dans les cavernes. Absolument pas. On va utiliser Internet, il n'y a aucun problème. Chokhma, sagesse, c'est-à-dire science dans les goyim, tu peux croire. Torah, ta'amin. Relation, c'est-à-dire qu'est-ce que Dieu veut du monde. Le sens, le but, ça, ils n'ont pas. Ça, il faut qu'il y ait un dévoilement, ça s'appelle Torah. Nous sommes détenteurs du dévoilement, personne d'autre.
Bah en fait, alors si je comprends bien, ce qu'on donne, parce que finalement, la Torah, c'est pas une façon de traîner Shama. Ça, c'est la personne elle-même.
Ça, c'est l'état, c'est sur les. Ça dépend de quelle partie tu parles. Rouar, c'est la partie, c'est moi-même. J'ai une Neshama, j'ai une Chaya Nechida qui m'appartiennent, mais qui sont en fait les outils de communication que j'ai avec Dieu.
Alors finalement, en fait, quand on inculque au fœtus la Torah, en fait, c'est comme si on ouvre la clé au voir de Neshama, c'est-à-dire on met en communication déjà avec Hachem, on ouvre que ce soit possible qu'il y ait une communication.
Potentiel, exactement. Et c'est très clair, hein, c'est très clair. Après, ce potentiel se cache. Pourquoi? Parce qu'on est dans la matière. Dès que tu nais dans la matière, alors automatiquement tout ce spirituel disparaît, tu viens dans ce monde. T'oublies cela. C'est beaucoup plus tard durant la vie où les parties spirituelles peuvent se réveiller si tu veux bien les réveiller. Et ça, c'est notre travail, messieurs. Parce que ce n'est pas seulement d'étudier la Gemara et de pratiquer. Nous devons développer chez nous la pensée sur les choses spirituelles. Nous devons penser à Dieu, nous devons aimer Dieu, avoir la crainte de Dieu. Pour avoir la crainte de Dieu, il faut le connaître. Pour l'aimer, il faut le connaître. Donc, comment on peut connaître? Il faut développer chez nous les outils abstraits que nous avons qui permettent de connaître Dieu. Donc le meilleur moyen, c'est d'y penser et d'en parler. Comment nous sommes en train de parler maintenant? Quand tu parles... Non, tu vois que je sens, moi, qui ne connais pas la Kabbalah, et nous, maintenant, en train de parler, on parle quand même pas seulement de Dieu. Quand tu commences à comprendre que Dieu, c'est dans l'abstrait, après, tu parles au niveau plus des preuves, tu vois que Dieu, il agit dans le monde, que, comme j'ai dit, je commence à expliquer, je finis en retombant sur mes pages, d'accord, que tu vois l'action de Dieu dans l'exil. Là-bas, dans le chapitre 28 de Deutéronome, Parashat Kitavou, on parle de tous ces exils. C'est marqué là-bas que Dieu va envoyer Makot Mouflaot, des fléaux extraordinaires, épatants, que les goïms seront... Comment est-ce qu'on peut envoyer des fléaux pareils? La Shoah, je crois que jamais on terminera dans l'horreur. Ça fait 60 ans que la Shoah est passée, 65 ans, et il y a encore des livres qui sortent, des dizaines chaque année, sur les horreurs qu'on n'a pas encore entendues. On n'en finit pas, et on ne peut pas s'arrêter d'être ébahi à quel point l'horreur était grande. C'est triste de devoir utiliser des choses pareilles, c'est absolument affreux, mais c'est une réalité. Il y a une réalité ici, on voit que la Torah, elle a dit « Makot Mouflaot », les peuples seront ébahis des fléaux extraordinaires. Alors moi je dis à mon ami, des massacres, de tout temps il y a eu, des génocides, de tout temps il y a eu, mais une Shoah, il n'y a jamais une chose pareille. Dans le paroxysme de l'horreur, c'est pas normal. Tu peux pas me dire, moi, je suis un peuple, depuis 4000 ans, je suis en exil, je souffre, et maintenant j'ai une Shoah qui tombe dessus. Tout est normal. Ça reste humain. C'est complètement inhumain. Inhumain dans le divin, c'est inhumain, divin, c'est inhumain, c'est divin, divin dans le mal, mais c'est divin, c'est pas ordinaire, c'est extraordinaire, c'est pas normal, c'est anormal. Donc je suis un peuple anormal, je suis un peuple extraordinaire, je suis géré par une chose qui est extraordinaire, ça coule de source. Même aux gens qui ont fait la Shoah, moi je suis dans mes conférences des gens qui ont fait la Shoah, et qui aujourd'hui mangent encore des grenouilles, d'accord? Mais quand ils voient ça, ils acceptent. Ils ne vont pas changer pour autant. C'est un pauvre monsieur, chaque nuit, il se réveille en hurlant. D'accord, c'est terrible. C'est terrible. Qui peut parler, qui peut... c'est certain que personne ne peut ni parler, ni surtout pas juger. D'accord. Mais il ne faut pas croire que, parce qu'on n'a pas vécu les choses, qu'on n'a pas le droit de parler et dire Dieu existe. Alors, comme il a autorisé, ok, on a fait, on a parlé, il y a le bien, il y a le mal. On peut parler, pourquoi le mal existe. On a fait une conférence là-dessus, on peut en reparler. Même des gens, je ne comprends pas. D'accord. Mais tu ne peux pas dire que Dieu n'existe pas. Aujourd'hui, la science, elle dit ça. Prends les bouquins de science. J'ai cité ici, sur une conférence sur l'âge du monde, d'accord, Yves Coppens, celui qui a découvert Lucie. Ah non, il dit, quand je vois toute l'histoire, impossible que ce soit le fruit du hasard. Un scientifique non religieux athée. Le journaliste lui dit, alors vous voulez dire que la science rejoint la religion? Il dit, je ne peux que le constater. Hein? Honnête. C'est impossible de dire aujourd'hui, avec ce que nous connaissons du monde, que c'est par hasard qu'on arrive à ce que nous sommes. C'est impossible. Il y a une induction, il y a une volonté qui dirige. Donc Dieu existe. Si Dieu existe, récemment, pourquoi je suis là? Pourquoi je suis là? Ben, faut kiffer. Mais t'as pas reçu cette tête. Hein? Tu comprends que la vache suisse kiffe bien plus que toi? Moi, je viens de Suisse. Là-bas, il y a des vaches les plus heureuses du monde. Elles font meuh toute la journée. Elles voient des trains passer dans les vallées suisses. C'est beau, il y a un beau panorama, il y a des concerts, glong, glong, glong. Elles font du chocolat suisse, elles ont de l'herbe suisse. C'est très bon tout cela. Je suis convaincu que la vache suisse moyenne est bien plus heureuse que toute l'humanité.
On parlait de Lucie. Mais Lucie, elle est datée à plusieurs millions d'années.
Ah oui, je ne suis pas déveillé. On a un cours entier là-dessus sur la datation de Lucie. D'accord. Dans le baba. Regarde la couverture, d'accord. Dans le baba, ils l'ont eu. D'accord. Datation du monde, etc. Ça, c'est pas un problème. Je veux pas l'aider. Maintenant, je parle du sens. Si quelqu'un peut sentir d'abord qu'il recherche du sens, ça veut dire que donc il y a un sens. Si c'est ce que Albert Camus, le mythe de Sisyphe, dit, j'ai soif de sens. Je sais que ma vie, si je ne connais pas le sens de ma vie, elle ne vaut pas la peine d'être vécue. Alors, je dis, je vis un paradoxe terrible. D'un côté, j'ai une soif de sens. Je veux savoir pourquoi je vis, et si sans cela, je ne veux pas vivre. D'un côté, j'ai une incapacité totale de connaître quel est ce sens. Il n'a pas Torah. Il n'a pas dévoilement de lui. Il ne sait pas où est le sens. Mais il dit, j'ai besoin d'un sens, sinon ça ne vaut pas la peine d'être vécu. Il dit, si quelqu'un savait le sens de sa vie, il sait que l'acte qu'il fait, c'est l'acte qui le réalise, le bonheur parfait. Je fais l'acte pour lequel je suis. Je me réalise totalement. Or, il ne faut pas être très intelligent pour comprendre que nous ne réalisons pas dans les fonctions animales d'une vache. Une vache, elle mange, elle a des plaisirs, elle se reproduit, et voilà. Alors, elle va au concert, ding-dong. T'es pas né pour ça. T'es pas une vache améliorée. T'as beaucoup plus. Si t'es capable de te mettre hors de toi et te dire pourquoi j'existe, tu peux penser que tu penses. C'est extraordinaire ce que Dieu nous a donné comme appareil. J'ai un appareil qui s'appelle la raison. Qui s'appelle la conscience, qui est divin, qui me permet d'avoir conscience que j'existe. Je ferme les yeux et je dis je pense que je pense. Aucun animal ne peut faire la chose pareille. Comment ça qu'un animal n'a pas cela? Oui, peut-être les animaux, oui, ils ont une conscience d'eux-mêmes. On a d'abord le common sense, d'accord, l'intelligence moyenne nous dit que non. Mais on a prouvé ça de façon scientifique. Comment on a fait ça? On avait un élève l'année passée qui a fait un peu de biologie, il m'a raconté, on a pris une souris. On l'a mis dans une cage avec un morceau de gruyère suisse et un peu d'eau. Donc à tout pour vivre heureuse, du gruyère, de l'eau. Et on a réussi à localiser dans le cerveau de la souris l'endroit des plaisirs. Où il y a le plaisir qui agit? On met là-bas une diode et lorsque la souris lève la tête, alors ça provoque du plaisir. Alors on la fait rentrer dans la cage, elle commence, elle découvre qu'elle lève la tête, ça fait du plaisir. Qu'est-ce qu'elle fait? Ben, elle relève la tête, tac, tac, comme ça. Un jour passe, deux jours passent, on va tac, tac, trois jours passent, quatre jours passent, cinq jours passent, elle meurt. Elle meurt de faim et de soif. Parce qu'elle est programmée à faire, c'est quoi l'animal? C'est programmée à fuir les souffrances qui a recherché les plaisirs, les pulsions. Il n'a pas conscience d'elle-même. Quelqu'un qui a conscience de lui, c'est ok, plaisir, mais tu vas crever. J'ai une conscience que je suis en train maintenant pour un plaisir de passer à côté. Donc j'arrête, stop, un moment, un peu de gruyère, un peu d'eau, et je recommence. Elle n'a pas fait ça. Parce qu'elle a une pulsion, elle suit la pulsion, elle est inconsciente d'elle-même.
Pourquoi ça sert de créer une créature comme ça qui...
Chaque chose qui est créée a un but. C'est ça la création. Alors Rambam en parlant, on parle une autre fois. Pour que chaque... il dit en deux mots, il dit chaque chose est créée, elle a un but. Le but suprême, c'est l'homme. L'homme, le but suprême de l'homme, c'est la connaissance de Dieu. Les animaux et les végétaux, tout ce qui existe dans le monde, y compris les étoiles, tout cela a le rôle de servir l'homme. Et même si on ne sait pas dans pourquoi cet animal a été créé ou ce végétal a été créé, un jour viendra, dit le Rambam, on saura. Et on voit qu'aujourd'hui en science, en technologie, d'accord, alimentaire ou autre chose, tu utilises n'importe quelle herbe d'Amazonie ou d'algues du Japon pour arriver à n'importe quel médicament ou autre chose, ou colorant de vitres, de lunettes ou de système de visée d'avion. D'accord, on arrive à des choses, on voit que tout sert à tout. Et un beau jour, on saura tout pour tout. Donc on verra qu'en fait, Dieu a créé maintenant tous les éléments pour toi. Toi, attends, toi, à quoi tu sers? Si c'est pour être une vache améliorée, on a raté. Tout s'appelle, j'ai mis dans la vie et la mort, choisis la vie. Merci beaucoup. Baruch Adonai.